des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Et oui, Cannabis Circus. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien avec nous donc à l'antenne. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis tout seul, il n'y a qu'une seule voix ce soir dans Cannabis Circus. Et voilà, oui, je suis tout seul à la technique et des fois on a du petit souci. Alors bon, si jamais vous entendez rien, eh bien vous me passez un coup de fil. Mais vu que les potards c'est clair, je pense que tout va bien. Donc voilà, ce soir, lundi 29 mai 2017... eh bien, on va comme tous les lundis soirs dans Cannabis Circus s'intéresser un peu à l'actualité des drogues et notamment l'actualité du cannabis. On va revenir sur les propos de Monsieur Gérard Collomb. Voilà notre maire de Lyon qui est devenu ministre de l'Intérieur. On va s'intéresser un peu à ce qu'il a dit la semaine dernière et des propos un peu confus. Voilà, nous trouvons en tout cas, on va voir ça. On va s'intéresser aussi à une bulle immobilière dopée par le cannabis aux États-Unis. C'est dans la partie immobilier du Figaro. Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Un article de eurosorbonne.eu aussi qui est pas trop mal. Et un article un peu rigolo d'un libertarien pur et dur belge. Qui intervient dans Contrepoint. Voilà, c'est un article assez sympa et un peu rigolo d'ailleurs. Si on a le temps, bon, peut-être pas d'ailleurs, tiens, on verra. Si on revient sur cette étude au sujet du cannabis qui affecterait les résultats scolaires des jeunes, des adolescents, on verra ça. On verra aussi, on illustrera, on parle régulièrement de la guerre à la drogue, des drames qu'elle provoque et tout ça et tout ça. Donc un article assez intéressant de Courrier International qui démontre une fois de plus l'absurdité et la cruauté, l'injustice de la guerre à la drogue quand elle tue des innocents. On verra tout ça. Et puis, peut-être aussi, s'il nous reste un peu de temps, toujours dans Courrier International, un article qui nous vient du Chili et qui nous parle de Natalia. Natalia qui cuisine avec un ingrédient secret, le cannabis, voilà, à Santiago du Chili. C'est Natalia Revelant, qui est spécialisée en gastronomie végétarienne avec un ingrédient secret, le cannabis. Voilà, on verra un peu tout ça. Aujourd'hui donc au menu, au sommaire de Cannabis Circus. Mais avant de parler de ce qui s'est parlé, de ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit dans la presse, je vais encore une fois insister un petit peu sur l'événement que nous attendons tous et toutes. C'est l'appel du 18 juin qui aura lieu exceptionnellement cette année, le samedi 24 juin à partir de 18h au Parc des Berges à Gerland, tram T1, Altony Garnier. On vous attend nombreuses et nombreux. Comme d'habitude, on espère que vous serez un peu plus mobilisés, un peu plus nombreuses et nombreux que pour la marche mondiale du cannabis qui cette année n'a pas attiré beaucoup de monde à Lyon. Voilà, bon, peut-être parce que c'était un week-end de pont. Il y avait le 1er mai qui était un lundi. Les années précédentes aussi, il y avait eu un peu plus de monde. Bon, il y avait eu une semaine où le temps était dégueulasse. Je ne sais pas si ça a joué ou peut-être, je ne sais pas, une crainte par rapport aux élections vu que c'était pendant l'entre-deux tours. On espère en tout cas que pour l'appel du 18 juin, cette année, donc, au Parc des Berges, vous serez plus nombreuses et plus nombreux. Donc, je rappelle bien, c'est bien le samedi 24 juin, Voilà, on a dû repousser d'une semaine, hein, je le réexplique encore un petit peu. Nous étions partis pour organiser l'appel du 18 juin le samedi 17 juin. Mais finalement, voilà, il se passe des choses dans les trois lieux que nous avions demandé à la mairie. Et donc, ces trois lieux étant occupés, nous avons été obligés de repousser d'une semaine l'événement, le rassemblement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il se tiendra exceptionnellement cette année, le samedi 24 juin. Voilà, mais bon, ça peut avoir du bon aussi de repousser d'une semaine. Voilà, le 24 juin, ce sera l'été. Il fera beau, il fera chaud. Je crois que tous les examens de fin d'année seront passés. Donc voilà, plus d'excuses pour les plus jeunes cannabinophiles légaux, hein, donc qui auront au moins 18 ans, hein, je précise, et oui, qui pourront donc venir participer à l'événement avec nous au rassemblement. Un rassemblement musical et festif qui sera sonorisé cette année encore par nos amis, nos camarades de Breda Sound System. Voilà, si vous aimez les grosses basses, les infrabasses et tout, bah, ça sera génial, parce qu'une bonne sono, des grosses enceintes. Et voilà, tout se passera bien, il y aura des crêpes, il y aura un petit buffet avec des quiches, des tartes à prix libre, de la documentation, bien évidemment, et de la bonne humeur. Voilà, et bien, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va se remettre un petit peu de musique. Voilà, j'espère que la platine va bien vouloir se lancer. Je vous dis là tout de suite, d'ici 4 minutes à peu près.
Ya, ¿crees que soy estúpida o qué? Solo bien confía en ese estado.
Voilà, voilà, on vient de s'écouter Williams Traffic et le morceau East Side. Donc voilà, on va retourner dans le petit débat vif du sujet, au sujet des annonces faites par Gérard Collomb pour des amendes pour les consommateurs de cannabis. On va s'attarder un petit peu dessus. Donc on va se baser sur un article, plusieurs articles dans la presse. On va s'intéresser à un article de CNews Matin de la semaine dernière, du 24 mai. Un article également du Monde du 25 mai. Un article également du 28 mai du Monde. Cette fois-ci, c'est un maître de conférence en droit privé, en sciences criminelles qui s'exprime, c'est Yann Biziou, donc dans une tribune. Et je vous livrerai également le petit communiqué de presse du cirque qui a réagi aux propos de monsieur Gérard Collomb. Voilà. Alors, d'abord, on va s'intéresser un peu à ce qu'il a dit. Alors, l'article de CNews Matin est, à mon avis, assez intéressant parce que Gérard Collomb raconte à peu près n'importe quoi dedans. Je suis désolé de dire ça, mais pourquoi ? Voilà, il dit comme ça, on voit de plus en plus qu'il y a une articulation très forte entre trafic de stupéfiants et terrorisme. Ce que dit Emmanuel Macron, ce sont deux choses. La première, c'est qu'on puisse dresser une contravention tout de suite, parce que pour l'instant, quand quelqu'un est interpellé pour trafic de stupes, il ne se passe rien. Ça, dans les 3-4 mois qui viennent, nous allons le mettre en place. Deuxième chose, éloigner les gens du quartier, c'est-à-dire leur interdire de reparaître dans le quartier afin qu'ils ne viennent pas narguer la victime qui a porté plainte et qui s'aperçoit que sa plainte est nulle. Voilà. Alors déjà, ces déclarations sont plutôt ambiguës en fait, parce que faut quand même rappeler que aujourd'hui en France, hein, quand quelqu'un est interpellé pour trafic de stupes, comme le dit Monsieur Gérard Collomb, il se passe pas rien. Non, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. En général, quand vous êtes interpellé pour ce trafic de stupes, vous êtes mis en garde à vue, ça peut durer 4 jours. Donc voilà. Donc déjà, ce qu'il propose, ces histoires de mettre des amendes et tout, ça ne s'applique pas pour les trafiquants de stupéfiants. C'est absolument pas. Ensuite, on nous explique que s'il y a une procédure qui est mise en place, on pourra éloigner le contrevenant de son lieu de résidence pour pas qu'il vienne narguer la victime qui a porté plainte. Mais la victime de quoi, honnêtement? De quelle victime parle monsieur Collomb? On ne sait pas bien si c'est un client qui a acheté du cannabis de mauvaise qualité et qui voudrait se plaindre à la justice, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ce cas-là. Ça peut être un riverain éventuellement qui peut se plaindre auprès de la police parce qu'il y a, un manège un peu sous ses fenêtres, des allées et venues, des gens qui montent la garde en bas de l'allée. Voilà. Éventuellement, ça pourrait être ça, mais on ne sait pas. Hein. C'est quand même particulièrement ambigu tout ce que raconte Monsieur Collomb. C'est quand même gênant parce que ça va être lui le ministre de l'Intérieur. Ça pose quand même des problèmes. Voilà. Alors, il y en a qui réagissent et qui disent quand même que parler de mettre des amendes contraventionnalisées, comme on peut l'entendre aussi, des amendes pour les consommateurs, je précise bien pour les consommateurs, ça pourrait être vu comme une mesure de dépénalisation. Voilà. Alors pour autant là dans cet article. Il y a quelqu'un qui dit, Benjamin Griveaux, qui dit comme ça, juridiquement, effectivement, c'est bien une dépénalisation que propose M. Macron, alors que M. Macron, il n'avait absolument pas parlé de dépénalisation. Mais là, ce Benjamin Griveaux nous dit que, on a préféré parler de contraventionnalisation pour qu'on comprenne bien, parce que tout le monde n'a pas forcément en tête toutes les subtilités. Dépénalisation, légalisation, sauf que nous, on voudrait rappeler à M. Griveaux que recevoir une amende, c'est bien être pénalisé. Donc la contraventionnalisation n'est absolument pas une dépénalisation. Voilà, donc finalement tout est dit et son contraire. Hein. C'est pas surprenant sur ce sujet-là. Parce que bon, bah, on le répète à peu près toutes les semaines, hein, on entend à peu près tout et son contraire, tout et n'importe quoi sur la question des drogues. Voilà, d'où un peu l'intérêt de faire une émission hein, pour expliquer, réexpliquer certaines choses assez hasardeuses, hein, finalement. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à la fin de cet article, c'est quand même qu'on nous rappelle que, en théorie, hein, la transaction pénale, hein, qui a été mise en place en octobre 2015 à l'initiative de Madame Christiane Taubira, permet déjà, en fait, aux policiers de faire payer une amende en cas de petit délit et notamment de consommation de cannabis sur la voie publique. Mais jusqu'à présent, donc, la procédure serait peu utilisée car elle serait jugée trop lourde par la police, par les forces de police. Ce qui est tout à fait possible, hein, ce qui est tout à fait probable. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on apprend déjà dans cet article de CNews Matin. Et donc voilà, si on s'en tient aux propos de M. Collomb, on peut pas trop s'appuyer dessus en fait, parce qu'il raconte encore une fois, je vous dis, des choses assez peu précises. Et encore une fois, voilà, j'insiste, hein, aujourd'hui en France, quand on est interpellé pour un trafic de drogue, on sort pas du commissariat au bout de 10 minutes. Hein. Cela n'existe pas. J'aurais quand même aussi rappelé à nos auditeurs, auditrices et à Monsieur Collomb, hein, qui peut-être nous écoute, qu'en France, les affaires de cannabis, ça n'aboutit pas à rien. Hein. Faut savoir qu'il y a quand même près 150 à 170 000 interpellations chaque année, et alors ça fait beaucoup beaucoup de monde, hein, et qu'il y a quand même à peu près 3000 peines de prison ferme qui sont prononcées par les tribunaux tous les ans. Voilà, donc il ne se passe pas rien, contrairement à ce qu'il nous dit, et lui qui est ministre de l'Intérieur devrait quand même savoir ces choses-là. Voilà. Alors ensuite, on va s'intéresser à cet article du Monde. Alors voilà, qu'est-ce qu'il rajoute là, Collomb ? Il rajoute qu'ils sont dans une phase de réflexion et de concertation sur le sujet pour mettre en œuvre donc ces mesures de contravention d'ici la fin de l'année. Alors la police, l'UNSA, hein, par un de ses représentants, l'UNSA qui est un syndicat de policiers, s'est réjoui de cette annonce, et ils disent comme ça que le ministre... en faisant sienne cette revendication syndicale de longue date, répond à une demande forte de simplification et d'allègement du travail sans sacrifier à l'efficacité. Voilà, donc la police, en tout cas le syndicat UNSA, lui, est favorable à une simplification des procédures pénales. Bon, pourquoi pas, si ça pouvait être profitable à tout un chacun et au compte. Aux usagers, aux contribuables et tout. Bon, on va voir un peu plus loin avec M. Bizouk, il n'en est rien. Hein. Voilà, donc le syndicat content, voilà, procédure plus simple et chronophage aussi, tout le temps qu'il faut prendre pour faire les papiers et tout ça. Et qu'en plus, nous dit ce syndicaliste, les dispositions répressives qui existent n'ont jamais démontré la moindre efficacité en matière de lutte contre les trafics. Les PV pour consommation non plus, hein, ne vont pas montrer la quelconque efficacité en matière de lutte contre les trafics. Mais bon, France, je crois qu'on est un peu les spécialistes de l'inefficacité, visiblement. Alors, on nous reparle de ce débat sur la dépénalisation, la légalisation, qui serait récurrent avec des associations d'usagers qui manifestent régulièrement pour demander une modification de la loi de 70. Faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas que les usagers qui demandent une modification de la loi de 70, il y a aussi tous les professionnels de l'addiction, en fait, la fédération addiction en premier demande également une modification de la loi de 70, et ce ne sont pas que les usagers. Voilà. On nous rappelle également que dans la pratique que l'emprisonnement pour usage est exceptionnel et que les amendes perdureraient. Voilà, l'emprisonnement n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait lire. À la fin de l'article là, du Monde, on nous dit qu'il y aurait 17 millions de personnes qui auraient avoué avoir pris du cannabis dans leur vie. 700 000 en consommeraient quotidiennement. Voilà un peu ce que dit l'OFDT. Voilà. Un petit peu. Donc, autre article du Monde maintenant. Cet article. Donc de Yann Biziou, qui est maître de conférence en droit privé et en sciences criminelles à l'université Paul Valéry de Montpellier, si je ne me trompe pas, voilà tout à fait. Je vais vous lire un peu ce que dit Monsieur Biziou, voilà qui dit comme ça, pour un gouvernement soucieux de maîtriser sa communication, le fait que l'annonce vienne du ministre de l'Intérieur et non de la ministre de la Santé ou du ministre de la Justice est révélateur. L'usage de stupéfiants n'est ni une question de santé publique ni une question de liberté individuelle. C'est devenu un problème d'ordre public, une incivilité. En cela, le gouvernement rompt avec les principes qui justifient depuis l'origine la pénalisation de l'usage des stupéfiants en France. La loi du 31 décembre 1970 avait admis la sanction pénale des usagers pour renforcer l'incitation aux soins. Ce qui n'a d'ailleurs jamais marché, hein, ou très peu. Créer une contravention pour sanctionner sans soigner n'a aucun sens. Soit l'usage de cannabis est un problème de santé publique et la réponse doit être sanitaire, ce qu'une contravention ne permet pas. Soit ce n'est pas un problème de santé publique et dans ce cas, pourquoi ne pas légaliser l'usage de cannabis comme le font de plus en plus de pays ? Pour autant, cette annonce ne constitue pas une surprise. Elle confirme la tendance à aborder la problématique de l'usage du cannabis sous l'angle de la lutte contre les nuisances publiques. L'usage est considéré comme un danger potentiel pour la société qui justifie des sanctions en dehors de toute préoccupation de santé. C'est déjà le cas de l'infraction de dépistage positif au volant qui n'offre aucune alternative sanitaire spécifique et sanctionne l'usager indépendamment de tout risque réel pour autrui. C'est aussi le sens de la décision du Conseil d'État autorisant le 5 décembre 2016 le test salivaire en entreprise par un supérieur hiérarchique au nom de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. C'est encore la volonté exprimée par Valérie Pécresse de développer le dépistage salivaire dans les lycées en Île-de-France ou la décision de Robert Ménard de mettre ses tests à disposition des parents dans les maisons de quartier à Béziers. En théorie, l'usage est un délit puni d'une peine maximum d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. En réalité, depuis plusieurs années, l'amende est la principale réponse à l'usage simple de cannabis et son montant est en moyenne de 450 €. Cette contraventionnalisation de facto n'a rien apporté, ni aux usagers, ni à la société. L'usage n'a cessé de progresser et les usagers d'être interpellés. La mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur n'a d'autre finalité que de faciliter la répression en rendant la procédure plus expéditive. Elle ne réglera pas la question du trafic et de la délinquance associée. L'amende plus systématique va peser sur les usagers les plus précaires et les plus jeunes, ceux qui sont interpellés lors de contrôles d'identité sur la voie publique. Enfin, elle risque de renforcer une pratique policière condamnée par la Cour de cassation qui consiste à poursuivre les usagers pour détention de stupéfiants, un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Parce que les pouvoirs d'enquête sont plus étendus pour un délit que pour une contravention que tout usager détient le cannabis avant de le consommer, la qualification pourra en effet varier en fonction des besoins de la procédure. Au contraire, à l'image de ce qui se met en place au Canada avec les deux projets de loi sur la dépénalisation du cannabis et la prévention de la conduite sous influence des drogues, c'est à une société plus inclusive pour les usagers de cannabis qu'il faut œuvrer. C'est le sens de la réduction des risques que Marisol Touraine a voulu conforter dans la loi santé du 26 janvier 2016 et c'est dans cette voie que le gouvernement devrait s'engager. Il faut faire l'effort de définir les comportements réellement susceptibles de causer un risque à autrui, prendre en compte la question de l'usage du cannabis dans la société, au lycée ou dans l'entreprise, pour en réduire les effets les plus néfastes et non persévérer dans une prohibition qui a échoué. Voilà ce que dit M. Biziou. Alors je ne sais pas si c'était son intention au père Biziou, là, mais la question de l'usage des stupéfiants, c'est aussi une question de liberté individuelle. Voilà. C'est une question de santé publique, une question de liberté individuelle. Voilà. Et en tout cas, ce n'est pas un problème d'incivilité au départ. Ça ne devrait pas l'être. Voilà. Donc, que répond le cirque à tout cela ? Eh bien, difficile de prétendre que le nouveau président de la République manque à ses engagements de candidat quant à la politique des drogues. Interrogé en début de campagne présidentielle, M. Macron avait dans un premier temps expliqué réfléchir à la question. Sollicité à de multiples reprises par les médias, elle avait ensuite timidement évoqué une possible dépénalisation, obligeant ses porte-paroles à s'expliquer maladroitement. Ce sont finalement les navrantes recommandations de la Mildeca qui ont trouvé grâce à ses yeux, comme l'annonçait hier donc M. Collomb. hier, enfin la semaine dernière. Présenté comme un progrès par le gouvernement, la contraventionnalisation est non seulement l'expression d'un manque de courage politique, mais aussi et surtout l'aveu de l'échec d'une politique fondamentalement criminogène, discriminatoire et liberticide. Plus grave, elle ne fait qu'institutionnaliser des pratiques policières arbitraires visant principalement les jeunes des quartiers populaires, issus des minorités visibles, comme il se doit. Comment s'étonner dès lors de la défiance croissante à laquelle on assiste à l'égard des autorités policières, judiciaires et politiques. Rien d'étonnant donc que l'un des principaux syndicats de police s'en félicite en refusant de s'attaquer à l'essence même du dispositif répressif. L'État se fait une fois de plus l'allié objectif des réseaux criminels auxquels il abandonne un marché dynamisé par la répression. Il serait bien plus pertinent de réguler d'un bout à l'autre de la filière récréative et thérapeutique de ce qu'il faut bien considérer comme la plus populaire des drogues illicites, afin d'en tirer des bénéfices fiscaux plutôt que de racketter des populations déjà fortement précarisées. Alors que les pères fondateurs de la guerre à la drogue et aux drogués que sont les États-Unis d'Amérique reviennent État par État sur cette gabegie financière et sociale, la France persiste, elle, dans ce que l'opinion publique perçoit désormais comme une aberration. Elle aurait pourtant tout intérêt à s'inspirer de ses voisins européens, comme le Portugal, qui, depuis 2001, a dépénalisé l'usage de tous les stupéfiants en y ajoutant des mesures volontaristes en termes de prévention et de soutien aux usagers problématiques, avec les formidables résultats que l'on sait. Le CIRC appelle en conséquence toutes les organisations impliquées dans la réduction des risques chez les consommateurs et consommatrices de drogue, ainsi que celles œuvrant dans le champ des libertés individuelles, à se mobiliser pour qu'enfin un débat digne de ce nom s'ouvre sur la délicate question de la politique des drogues. Voilà. Et donc, moi j'en profite encore pour vous rappeler, pour vous inviter à vous mobiliser avec nous le samedi 24 juin 2017 à partir de 18h au Parc des Berges, pour qu'on se mobilise, pour que voilà, tous ensemble on puisse encore une fois dire qu'on n'est pas d'accord avec toutes ces dispositions et rappeler quand même que en tant qu'usager, on est un peu les principaux experts de toutes ces questions et que au lieu de raconter n'importe quoi, on pourrait peut-être nous solliciter pour qu'on discute en fait. Ça serait pas mal. On ne peut que recommander à ce gouvernement de se rapprocher de Daniel Vaillant et de tous ceux qui l'ont accompagné pour travailler en 2011 sur la remise d'un rapport qui préconisait une légalisation et en tout cas la mise en place de filières de production saines. Je me rappelle pas si le rapport Vaillant préconisait l'autoproduction, mais en tout cas ça pourrait être pas mal aussi. Nous pouvons également recommander à ce gouvernement de se rapprocher de la commission parlementaire, je crois bien, qui a travaillé sur l'Uruguay et qui s'est rendue en Uruguay l'année dernière, me semble-t-il. Voilà, plein de choses en fait, plein de pistes à explorer pour ce nouveau gouvernement, plein de meilleures solutions à adopter que des projets complètement inefficaces, qui coûtent très cher et qui, encore une fois, vont montrer leur échec, si ce n'est déjà pas fait. Voilà. Eh bien, allez, on va retourner écouter un petit peu de musique. Et après, nous revenons pour parler de cette bulle immobilière dopée par le cannabis aux États-Unis, par exemple. À tout de suite.
attaque.
On vient de s'écouter Lab avec le morceau Alien Attack. Ah, je vois qu'on essaie de me contacter. Alors, c'est compliqué de faire l'émission tout seul et de répondre au téléphone. Je suis désolé, là, je ne vais pas pouvoir répondre. Peut-être que s'il y a une coupure musicale tout à l'heure et qu'on m'appelle juste au début de la chanson, ben, je peux répondre. Sinon, voilà, c'est assez compliqué. J'espère que vous comprenez. Je suis tout seul à la radio. Voilà, donc après ce petit morceau de musique, on va s'intéresser à ce petit article du Figaro, de la rubrique immobilier du Figaro, où on nous explique qu'il y a une bulle immobilière dopée par le cannabis qui est en train d'émerger aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en fait, oui, il se trouve que dans un certain nombre d'États, alors on parle carrément de 30 États américains, et oui, parce qu'entre tous ceux qui ont légalisé pour des raisons thérapeutiques ou récréatives, maintenant ça commence à faire beaucoup, et la majorité des États des États-Unis ont changé leur législation d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une forte tendance actuellement qui consiste à transformer d'anciens entrepôts vides et abandonnés en sites de production, de transformation, voire même de vente de cannabis. Ça change complètement la donne parce que ce genre de construction. Avant, ils accueillaient des fabriques, des ateliers de production, et que vous n'êtes pas sans ignorer, parce que ça s'est passé aussi chez nous en France et un peu partout, ces usines, ces entrepôts, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, ils ont tout délocalisé en Asie du Sud-Est, par exemple. voilà, ou en Éthiopie par exemple aussi, tout ça pour produire à moindre coût et exploiter des travailleurs en les sous-payant. Hein. Donc voilà, ben, y a plein de lieux comme ça qui sont vides aux États-Unis et aussi en France, hein, sauf qu'en France, on n'a pas changé la loi sur le cannabis, vous l'aurez constaté également. Donc voilà, par exemple, le New York Times fait état d'un gros projet de marijuana à usage médical baptisé Hermont, pardon, pas de H. Donc Hermont vient de racheter au prix fort un bâtiment désaffecté à Quincy dans le Massachusetts, un bâtiment de 3 500 m² quand même, donc c'est un gros bâtiment. Et il est également expliqué dans cet article que bah, les propriétaires ont compris que ces grandes surfaces qui aujourd'hui n'intéressent plus personne valent de l'or désormais. Hein. Dans le Colorado, un rapport officiel démontre que les loyers pour ce genre d'entrepôt ont bondi de plus de 50% entre 2010 et 2015. Voilà. L'industrie naissante du cannabis peut se le permettre. Hein. Les ventes légales aux États-Unis ont atteint 6,7 milliards de dollars l'an dernier et elles pourraient même atteindre les 20 milliards en 2021 d'après une boîte de prospection. Mais il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dénoncer cette bulle immobilière en préparation. Voilà, on n'espère pas hein, que la prochaine crise, la prochaine crise économique et financière, on espère qu'elle viendra pas à cause de ça. Hein, ça serait quand même vraiment malheureux. Mais on nous explique aussi dans cet article que la tendance n'est pas prête de s'inverser, hein, et parce que les entrepôts continuent à être fortement recherchés parce qu'ils permettent de cultiver bah, beaucoup de plants, hein, forcément. Et de contrôler également précisément les conditions de culture, tout en pouvant sécuriser les lieux facilement, nous dit-on. Voilà. Et comme il est encore illégal de transporter de la marijuana hors des frontières d'un État américain, bah, l'herbe qui pousse là, elle doit être vendue là, hein, tout simplement. Preuve que l'impact du cannabis est donc loin d'être négligeable sur l'immobilier. Et il y a même une étude qui a été faite par le réseau CBRE qui prouve que la ville de Denver... qui a prouvé que sur la ville de Denver entre 2009 et 2014, 36% des nouveaux locataires industriels étaient liés à la production du cannabis. Voilà. Le journaliste Jean-Bernard Litzler termine sur une petite blague pas drôle. Il nous dit comme ça que l'abus de drogue pourrait donc nuire gravement à la santé du marché. Ouais, bon, je suis pas certain que... Ça a un rapport avec l'abus de drogue, mais bon... voilà, c'est en tout cas là-dessus que ça se termine. Donc un article de immobilier.lefigaro.fr aux États-Unis, une bulle immobilière dopée par le cannabis. Si ça vous intéresse de lire l'article de vos propres yeux. Voilà. Ensuite, oui, un petit article aussi que je trouvais un peu rigolo qui a été publié dans Contrepoint. Qui a été écrit par Alexis Grabzinski, qui est le trésorier du Parti libertarien belge. Voilà, et je vais vous lire cet article voilà, qui est intéressant. En tant qu'ardent défenseur de la liberté et donc premiers opposants au socialisme, nous estimons important de rectifier celle-ci afin que le public ne soit pas trompé par les amalgames, du jeune propagandiste dont nous ignorons s'ils sont dictés par la mauvaise foi ou le manque de culture libérale. Le libertarianisme, dans la plus pure lignée du libéralisme, non seulement est défavorable à la prohibition des drogues, mais apporte en outre la meilleure des réponses aux problèmes que celle-ci provoque dans notre société. Nous estimons que l'être humain doit pouvoir interagir librement avec ses semblables sans que l'État ne se mêle desdites interactions entre individus libres et consentants. Pourquoi ? Parce que selon nous, il n'y a pas de crime sans victime. Or, la prohibition en vigueur actuellement est bien le fait de lois étatiques, tout comme la restriction du choix du consommateur en matière de semences ou de lieu d'achat de son produit. Une libéralisation du commerce du cannabis sera une grande victoire sur de nombreux plans. Tout d'abord, elle assainira le marché économique et le rendra plus florissant. Une ouverture à la concurrence qui est source de diversité et de respect des choix de chacun fera baisser les prix et permettra la vente d'une plus grande diversité de cannabis à la plus grande satisfaction du consommateur. Celui-ci pourra librement choisir sa filière de consommation. Certains opteront pour la qualité industrielle, d'autres pour la biologique. Certains préféreront l'acheter dans une pharmacie, d'aucuns seront dans un coffee shop ou dans un cannabis social club, quand d'autres, pourquoi pas, l'achèteront par le biais d'une application du style Uber. Après avoir commandé son repas sur Uber Eats, pourquoi ne pourrait-on pas commander et se faire livrer sa Super Silver Haze à domicile via Uberweed. Ensuite, la libéralisation du secteur sera créatrice d'emplois. Les entrepreneurs retrouveront la liberté dont ils sont privés depuis si longtemps. Les dealers des quartiers pourront sortir de la clandestinité et se reconvertir dans le commerce au grand jour. Si nous voulons lutter contre le chômage de masse, il est important d'enlever les chaînes législatives et fiscales qui découragent les entrepreneurs en herbe. En outre, les sociétés créées effectueront des recherches sur leurs produits et chercheront à les améliorer. Cela donnera naissance à des produits mieux contrôlés, donc plus sains. Cela pourra se révéler d'autant plus utile que, en matière médicale, le cannabis peut avoir de nombreuses utilisations pratiques, comme en cas de douleurs physiques à atténuer, par exemple. Enfin, dans une société libérée, où le cannabis n'est plus ni prohibé ni tabou, il deviendra plus aisé pour les associations de mieux renseigner les individus sur les consommations qui peuvent devenir problématiques si elles dépassent le stade de la consommation récréative. Voilà ce pourquoi les libertariens et les libéraux sont favorables à la libéralisation du secteur des drogues. Contrairement à la famille socialiste, dont l'objectif principal consiste à taxer un des rares secteurs qui échappe encore à sa rage spoliatrice, nous estimons qu'il s'agit d'une matière qui est du ressort des individus. Vous êtes maître des conséquences de vos choix de vie, ce n'est pas aux politiciens de carrière ni même à l'État de diriger vos existences. Voilà. Voilà. Bon, nous ne souscrivons pas entièrement à ce texte et à ces idées, même si beaucoup de choses qui sont exprimées dedans sont intéressantes et sont également promues par le cirque depuis de nombreuses années. Je pense notamment à ces entrepreneurs qui retrouveront leur liberté et qui pourront faire du boulot clean dans des officines ou des commerces légaux au grand jour. Hein. Nous, on réclame ça, hein, que les dealers et toutes les personnes qui sont les acteurs du trafic clandestin puissent avoir une place dans un marché légitime et légal. Voilà, c'est la moindre des choses. On ne voudrait surtout pas faire ce qui se fait aux États-Unis, hein, parce qu'il ne se passe pas que des super choses aux États-Unis avec la légalisation. Mais ce qui n'est pas génial aux États-Unis, c'est que, bah, par exemple, des individus qui ont été arrêtés et condamnés, et donc qui ont un casier judiciaire, et notamment, même si c'est pour une question de cannabis, ne peuvent pas, en raison des poursuites pénales et donc du casier judiciaire, ne peuvent pas travailler dans une boutique ou dans un magasin qui vend du cannabis, ce qui est absolument scandaleux. Qui risque pas d'arranger les problèmes de racisme aux États-Unis. Hein. On a constaté quand même que l'incarcération massive des usagers de drogue, c'était aussi l'incarcération massive des gens issus des minorités ethniques, et que là, c'est dénoncé, c'est super, mais il faudrait pas créer un autre problème à côté, quoi. Voilà. D'autres choses également sont expliquées là dans ce texte, que ici une légalisation, ça permettra de créer beaucoup d'emplois. Voilà. Après, nous, personnellement, on n'est pas super favorable à une ouverture totale à la concurrence pour le cannabis avec Uberweed et compagnie. Voilà, on n'est pas trop favorable à ce genre de choses. On est plus intéressé par le modèle uruguayen, voilà, qui est quand même un modèle où il y a un contrôle d'État assez fort. Ce qui effectivement n'est pas du tout le projet des libertariens et des libéraux qui veulent le moins d'État possible. Voilà, sauf que la liberté totale, ça n'existe pas forcément non plus, pour tout un tas de raisons sociologiques. Bref, c'est pas si simple. Donc nous, on est moins favorable à tout ça, mais bon. Quand même des idées très intéressantes dans ce texte. Voilà. Autre article un peu, voire carrément politique, que je ne vais pas aborder dans son intégralité, il ne nous reste pas énormément de temps, c'est un article qu'on peut trouver sur internet dans eurosorbonne.eu. Eurosorbonne, c'est quoi ? C'est le journal de l'association de l'Institut d'études européennes de la Sorbonne Nouvelle. Voilà. Et là, Elena Blum, donc dans cet article, nous livre un petit article assez intéressant sur la politique des drogues en France et en Europe. Et elle déplore qu'il n'y ait pas, une politique européenne des drogues, notamment. Elle déplore également la position française hein, qui s'entête dans la prohibition. Helena Blum, par contre, fait l'éloge un peu du Portugal, hein, voire carrément, qui a adopté... alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Elle nous dit quand même que, à mon avis, c'est une erreur quand même, hein, que le Portugal a adopté la loi la plus libertaire au début des années 2000. La dépénalisation de l'usage et la fin des poursuites criminelles et pénales, ce n'est pas ce n'est pas très libertaire. Hein. Enfin, ça ne peut résoudre ça du libertarisme. Bref. En tout cas, le reste est intéressant. Elle nous explique quand même que voilà, cette dépénalisation avec une espèce de tolérance pour la possession de petites quantités de drogue, et notamment jusqu'à 25 grammes de cannabis, que sont plus poursuivis pénalement des personnes qui ont été interpellées à plusieurs reprises, que on a mis en place des pratiques de prévention qui sont beaucoup plus saines, de sensibilisation, qu'on a mis en place la réduction des risques, que tout ça, blablabla, ben, ce qu'on sait déjà, hein, ça a fait chuter le nombre de nouvelles infections au VIH ont été divisées par 20, le nombre de morts par overdose a été divisé par 5 en 15 ans. On compte au Portugal plus que 3 décès par drogue pour 1 million d'habitants, tandis que la moyenne de l'Union européenne est de 17. Et que bah, les raisons hein, de ces excellents résultats, point d'interrogation, bah, une meilleure prise en charge médicale et sociale des personnes dépendantes et non pas des drogués. Une dédramatisation de la consommation de drogue qui incite les personnes en danger à contacter les secours beaucoup plus rapidement. Et ce qui est intéressant aussi qu'elle explique, c'est que la législation n'a pas d'impact réel sur la consommation de cannabis. Elle nous dit aussi, et c'est intéressant, que les chiffres officiels de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ne seraient pas si fiables que ça, parce qu'il y aurait des chiffres de plus en plus considérés comme non représentatifs, voilà, qui auraient une consommation beaucoup plus décomplexée. Et elle parle justement des associations et organisations militantes qui estiment que environ 8% de la population fumerait du cannabis régulièrement. C'est intéressant de le souligner, parce qu'on lit rarement ce genre d'informations. Et bien sûr, elle finit par nous parler des autres exemples qui ont lieu dans le monde. Elle commence par l'Europe, où aucun pays n'est passé, n'a franchi le cadre de la légalisation, hormis la Hollande qui a dépénalisé. Hein, qui est plus tolérante, mais elle, bien sûr, elle nous parle de l'Uruguay et bien évidemment des États-Unis, avec tous les effets positifs que cela a engendré, des rentrées fiscales supplémentaires. Elle nous parle également du Canada, voilà, qui devra bientôt suivre également cet exemple, une promesse de campagne du très populaire Justin Trudeau. Voilà, et que les enjeux donc liés à la dépénalisation du cannabis sont multiples, meilleur encadrement social et médical, gains économiques et la lutte contre la criminalité organisée, la lutte et la traite humaine qui en découle. Cependant, la question de l'acceptation de la pratique par la société est encore au cœur du débat. Là, je suis moins d'accord, parce que de plus en plus, les sondages montrent que la société avance et est prête. Si on met en place une légalisation qui se ferait de manière convenable et sérieuse. Mais voilà, elle dit, il faudra du temps pour que les cultures nationales s'harmonisent et que les dirigeants décident de mener une véritable politique européenne du cannabis. Je crois que c'est là le problème, en fait. Les dirigeants, en fait, nos dirigeants. On voit avec le père Colomb, là, que ben, ouais, lui, il est à la ramasse. Le père Gérard, qui pourtant a été maire de Lyon pendant plusieurs années. Qui pourtant a fait campagne avec des militants socialistes qui étaient avec lui il y a une trentaine d'années et qui pour la plupart étaient des fumeurs de cannabis. Alors ça, franchement, cette hypocrisie-là, moi, ça passe pas. Faut quand même qu'il arrête. Hein. Alors là, je suis désolé, mais c'est pas normal ce qui nous sort là. Donc voilà, on va réfléchir au cirque à voir comment on peut pas, je sais pas, l'outer d'une manière ou une autre. Parce que Gérard Collomb, voilà, il y a des gens qu'on connaît ici à Lyon, qui ont été proches du PS, qui ont été au PS, qui ont même fumé des pétards avec lui. Donc voilà, Il faut quand même que ça se sache. Voilà. Enfin, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Alors d'abord, cet article qui nous vient de Courrier International. C'est un procès qui va se tenir prochainement aux États-Unis. Le procès d'un agent américain au Honduras il y a cinq ans, c'était le 11 mai 2012 dans le nord-est du Honduras. Ce jour-là, à peu près à 2h du matin, une équipe constituée d'agents de l'antidrogue américaine et de la police du Honduras qui escortait un canoë chargé de cocaïne saisi dans une région reculée d'Amérique centrale. Et c'est alors que leur bateau a été heurté, alors en même temps en pleine nuit, s'ils font ça discrètement sans lumière, forcément c'est pas pratique, et on n'y voit pas. Alors il y a un bateau qui les a heurtés, en fait. Non, pardon, c'est leur bateau qui a heurté un bateau taxi qui transportait 16 passagers. Il y avait des policiers ainsi qu'un tireur hondurien à bord d'un hélicoptère américain qui escortait le convoi rempli de cocaïne là. Et eh bien le policier de la DEA a tout simplement ordonné à tout le monde d'ouvrir le feu sur ce bateau qu'ils avaient heurté. Dans ce bateau, il y avait 2 femmes enceintes et un adolescent de 14 ans. Les autres se sont jetés à l'eau. Mais voilà, il y a quand même eu. L'adolescent et les 2 femmes qui étaient enceintes ont été tués. Voilà, alors les autorités ont d'abord prétendu avoir répondu en situation de légitime défense, mais il y a quand même eu un rapport de 424 pages qui a été produit, s'appuyant sur des images filmées par un patrouilleur aérien américain et qui a toutefois mis en évidence qu'aucun des passagers qui étaient dans le bateau taxi n'était armé. Et le rapport a également mis en exergue le rôle prépondérant joué par ce policier de la DEA qui a ordonné à son homologue hondurien à bord de l'hélicoptère de faire feu sur les civils. Voilà un peu ce que ça peut donner parfois la guerre à la drogue. Voilà, c'est lamentable. Hein. Des innocents qui ont été tués. Tout ça parce que des forces de police américano-honduriennes escortait un bateau dans lequel dedans il y avait de la cocaïne saisie, et donc voilà, on heurte un bateau, on sait pas, il fait noir, boum, on tire dans le tas et on tue 2 femmes enceintes et un adolescent de 14 ans. C'est absolument lamentable. Voilà une raison de plus qui nous fait dire que la guerre à la drogue n'a pas lieu d'être, c'est injuste, c'est illégitime, c'est cruel, ça tue des gens et ça favorise les mafias, les réseaux criminels. Voilà. Pour terminer, on va finir sur une petite note gastronomique et plutôt positive. Et là, on va se rendre donc au Chili, à Santiago du Chili. On va s'intéresser très rapidement à une chef chilienne, Natalia Revelant, qui est spécialiste en gastronomie végétarienne et qui cuisine des plats à base de cannabis. Voilà. Alors moi, ce que j'avais bien aimé dans cet article, c'est qu'elle souligne les propriétés nutritionnelles du chanvre, qui est riche en acides gras et en oméga-3 et en oméga-6. Il n'y a pas mieux sur Terre. L'huile de chanvre, par exemple, c'est l'huile qui est la mieux équilibrée en oméga-3 et en oméga-6. Voilà. Et c'est très important, les oméga-3 et les oméga-6, parce que, nous dit cette cuisinière, ça permet de soigner certains symptômes d'inflammation des patients. Quant à ses valeurs thérapeutiques, elles résident dans les cannabinoïdes, ces composants responsables des effets hallucinogènes de la marijuana, comme le THC. Mais pour cela, dit-il, il faut doser de manière très précise la quantité de drogue utilisée dans la recette. Il est important de prendre en compte le fait que chaque patient va réagir de façon différente à l'usage des cannabinoïdes. Donc il faut toujours être prudent avec le dosage. Sa recommandation, une dose de 0,1 à 0,5 g de cannabis par portion de nourriture afin d'éviter les effets hallucinogènes. Car, dit-elle, si on dépasse ce niveau, le risque de causer de la somnolence, voire un évanouissement. La plante de cannabis ne tue personne, dit-elle, mais il est important de connaître les effets et de s'entraîner pour savoir quelle est sa dose appropriée selon son profil. Voilà. Je vous rappelle, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais le Chili va être le premier pays d'Amérique latine à mettre en vente 2 médicaments élaborés à partir de cannabis et prescrits pour traiter les douleurs chroniques. Et ils ont été commercialisés pour la première fois mercredi dernier. dans des pharmacies chiliennes, c'est-à-dire que le Chili va même plus vite que l'Uruguay, en fait, qui a légalisé depuis plusieurs années. Mais en Uruguay, au partir du mois de juillet, on pourra trouver du cannabis thérapeutique dans les pharmacies. Alors que là, au Chili, c'est déjà le cas dès la fin du mois de mai, en fait. Hein. Et c'est dans cet article du Courrier International, on nous explique que le pays abrite depuis mars 2016, donc depuis l'année dernière, la plus grande plantation légale de marijuana d'Amérique latine. Voilà, qui va donner naissance à un médicament expérimental destiné en premier temps à traiter 4000 malades du cancer, d'épilepsie ou d'affection causant des douleurs chroniques. Voilà, donc article intéressant, je vous ai surtout parlé de la fin de l'article. Je vous invite à vous rendre sur internet, vous pouvez y aller en allant sur le site de Courrier International. Vous cherchez un au Chili, Natalia cuisine avec un ingrédient secret du cannabis. Voilà, voilà. Eh bien, c'est sur cette petite note gastronomique que nous allons nous quitter. Voilà, je voudrais bien vous mettre le générique de fin pour terminer, mais on a des soucis de platine, comme d'habitude. Enfin, moi, j'ai un peu du mal avec les nouvelles platines. Celle-ci, là, ça va, j'y suis arrivé aujourd'hui, j'ai eu peur, hein. Mais bon, ça a marché. Ah, j'ai réussi à trouver le générique. Vous aurez droit au générique. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. Merci à toutes, merci à tous de votre fidélité pour nous avoir encore écoutés ce soir. Maintenant, eh bien, comme tous les lundis après Cannabis Circus, c'est Chasseur de Son. Voilà, à la semaine prochaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Peut-être pas d'émission la semaine prochaine, on n'est encore pas sûr. Sinon, il y en aura une le lundi d'après, le 12 juin d'ailleurs. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonsoir à tous. Au revoir et merci.